Infrajour.
Nous sommes le mardi 18 novembre 2008, dans une petite commune du Cher, d'Ain-sur-Oron. Aux environs de 17h, le jeune Maurice Robineau, dit Momo, ressort de la boulangerie située au croisement de la Grande Rue et de la place Gustave Vinadel, un sachet de friandises à la main. Momo aime beaucoup cette boulangerie, car c'est la seule de la ville à proposer des têtes brûlées, ces petits bonbons acidulés qu'il affectionne particulièrement. L'accord conclu par Maurice avec ses parents à la rentrée scolaire est simple. Pour chaque bon résultat obtenu lors d'une évaluation en classe, il obtient de l'argent de poche, qu'il peut ensuite dépenser à sa guise. Le choix du jeune garçon, âgé de 8 ans, se porte systématiquement sur des sucreries, dont il raffole au grand dam de sa mère, Christiane. Celle-ci s'inquiète en effet de la quantité de glucides que consomme son fils quotidiennement, tant en raison de son léger embonpoint que de sa première carie, détectée l'an dernier par son dentiste. À 17h15, Christiane s'inquiète de ne pas encore avoir vu son fils rentrer à la maison. 17h30, Maurice franchit enfin le pas de la porte. Il est en larmes, suffoque, et il faut plusieurs minutes à sa mère pour le calmer et obtenir qu'il lui relate les événements ayant provoqué ce retard. Tandis qu'il venait de reprendre sa route et qu'il passait sous le beffroi, Momo s'était fait bousculer par quelqu'un qui lui avait pris ses bonbons. Bien que sa mère pense à un accident, le jeune garçon est formel. C'était un acte délibéré visant à lui dérober son précieux butin. À son retour du travail, le père de Maurice est mis au fait des événements de l'après-midi. François Robineau réconforte à son tour son fils, lui explique que la personne qui a fait ça ne l'a sans doute pas fait exprès, qu'il ne s'agit en somme que d'un banal incident impliquant un adulte trop pressé qui ne remarque pas un enfant et son sac de bonbons. Pour finir de convaincre Momo, il lui rembourse ses friandises et l'invite à renouveler son achat après sa prochaine journée d'école le jeudi. Deux jours s'écoulent et François Robineau rentre chez lui le jeudi soir, l'esprit totalement accaparé par des problématiques professionnelles. Il retrouve sa femme et son fils en pleine conversation dans la cuisine, ce dernier à nouveau en pleurs. Rebelote, on lui a volé ses bonbons. À nouveau, lors de son passage sous le beffroi, à nouveau bousculé par un grand qui lui a, à nouveau, dérobé ses précieuses friandises. Cette fois, c'en est trop pour les parents Robineau, qui décident de prendre les choses en main. Direction la gendarmerie nationale. Cela tombe bien, elle se situe tout près de l'étroit passage du beffroi. Cela facilitera sans doute l'inspection des lieux du crime et la collecte des premiers indices. Le brigadier qui les accueille n'entend pas les choses de la même manière. Pour lui, hors de question de se déplacer et de mobiliser des hommes pour ce qu'il qualifie, avec un certain manque de tact selon les parents de Maurice, de « broutille sans intérêt ». De plus, aucun témoignage n'est venu corroborer les propos de Momo. Personne d'autre ne s'est plaint de quoi que ce soit. Affaire classée. Monsieur Robineau ne l'entend pas de cette oreille et il file à la boulangerie dans l'espoir de trouver un témoin qui accepterait de confirmer la version de son fils. Lorsque François et Christiane Robineau rentrent à la maison à l'heure du dîner pour retrouver leur fils, terrifiés, les nouvelles ne sont pas bonnes. Personne n'a rien vu ni entendu. Aucune agression ni personne suspecte n'ont été signalées dans les environs. Ils ont fait chou blanc et se retrouvent démunis face à la détresse de Momo. Cette situation, cependant, ne perdure que quelques jours. À peine une semaine plus tard, en effet, les parents d'un camarade de classe de Momo contactent les Robineau. Leur fils, lui aussi, s'est fait voler ses bonbons. À l'exact même endroit que Maurice, le beffroi. Branle-bas de combat chez les Robineau, qui cette fois décident d'alerter l'école des enfants. Bingo! Deux jours après avoir été mise au courant, la directrice confirme que d'autres enfants se sont déclarés victimes d'une agression similaire et contacte les familles. Cette fois, François peut se faire entendre des autorités, et cette fois, elles n'auront d'autre choix que d'agir. Cette fois, cependant, ils décident de passer directement à l'étape supérieure. C'est au maire de la commune qu'il veut rapporter l'agression de son fils et des autres enfants de l'école. Direction la place du champ de foire pour s'entretenir avec Martin Noyer, ou plutôt Monsieur le maire. Martin et François sont amis, ou du moins jouent au tennis ensemble chaque été. Cela devrait donc bien se passer et les choses rentreront vite dans l'ordre. Pourtant, quelques minutes seulement après être entré dans l'hôtel de ville, François Robineau en ressort, furieux, avec le sentiment de ne pas avoir été entendu, et encore moins écouté. Les quelques parents d'élèves qui s'étaient joints à sa démarche et l'attendaient sur le parking sont tout aussi déçus que lui, et presque autant remontés. Un passant curieux se permet alors de les interrompre. L'homme a une allure pour le moins étrange. Grand, aux traits émaciés, son apparence de dandy lui donne l'air d'être tout droit sorti d'un roman d'Honoré de Balzac. Charismatique, il captive très vite son auditoire et se présente comme un détective privé du nom de Guillaume Paulin. Engagé par une famille originaire de la région parisienne, il est depuis plusieurs mois à la recherche d'une jeune fugueuse et son enquête l'a mené jusqu'en région centre, à Vierzon tout d'abord, puis Bourges et finalement jusqu'à Dun-sur-Auron. Il s'intéresse de près à un groupe de criminels d'origine russe et qui serait lié à la mafia soviétique, rien de moins. Proxénétisme, trafic de drogue, extorsion, ces hommes sont très dangereux et seraient liés, selon lui, à la disparition de la jeune fille qu'il recherche. Quel rapport avec un simple vol de bonbons ? S'interrogent François Robineau et les autres parents d'élèves, de plus en plus troublés à mesure que l'étrange personnage énumère les méfaits dont se rendraient coupables ces inquiétants mafieux. Paulin avance alors une théorie. Il s'agirait tout simplement d'un rite de passage. Les nouveaux venus, les recrues, ou simplement les plus jeunes, suivraient ainsi une sorte d'initiation, composée de menues agressions et de larcins mineurs, destinés à les faire entrer dans la bande en éprouvant leur sang-froid, sans pour autant attirer l'attention des forces de l'ordre. Et quoi de mieux que voler les bonbons d'un enfant pour montrer aux autres que l'on est prêt à tout. Cette rencontre avec le détective privé met en émoi le petit groupe de parents. Pour François et Christiane Robineau notamment, il ne s'agit plus d'obtenir une justice rapide en faisant arrêter le voyou responsable des agressions de leur fils Maurice. Il est maintenant question de protéger Momo et d'éviter que cela ne se reproduise ou pire, que la situation ne dégénère. Dans les jours qui suivent, un comité de parents vigilants se met alors en place, où les familles s'organisent afin de ne plus laisser leurs enfants rentrer seuls de l'école. Un planning est établi, et chacun consent à de sérieux efforts pour se rendre disponible le matin et en fin d'après-midi, afin d'assurer une véritable escorte aux bambins. Les gens se relaient, patrouillent parfois en groupe, aux endroits sensibles, et des réunions régulières se mettent en place pour que chacun soit tenu informé de la moindre anomalie, du moindre fait suspect. Évidemment, plus le moindre signe d'agression n'est à signaler, la tranquillité relative revient chez les Dunois et les Dunoises. Enfin, une cagnotte est créée pour permettre de couvrir les frais de Guillaume Paulin. Le détective a annoncé aux parents vouloir infiltrer le groupe mafieux, dans l'espoir de collecter des preuves suffisantes et conséquentes pour intenter une action policière d'envergure contre la bande, afin d'en emprisonner les membres, ou mieux, les chasser de la commune. Cet élan de solidarité trouve pourtant ses limites au sein même de l'école. Deux petits garçons, deux frères, Luca et Nicolas, sont en effet laissés à l'écart par leurs camarades. La raison ? Leur nom de famille, Milinkovic. Un nom qu'ils tiennent de leur père, pourtant d'origine serbe. Et la famille est installée depuis plusieurs générations dans la petite bourgade du Cher. Mais dans cette période de tension, les gens ne tiennent guère compte de ces subtilités géopolitiques, ni des 1700 km qui séparent Belgrade de Moscou. Dans l'esprit de parents vivant sous la menace de redoutables criminels qui mettent en péril leur sécurité et surtout celle de leurs enfants, les raccourcis ne tardent pas et la peur des plus grands se répercute dans les jeux des plus petits. Le lundi 8 décembre, coup de théâtre. L'école contacte tour à tour les différents parents des enfants victimes d'agressions. Sous la pression du grand frère Nicolas Milinkovic, qui ne se portait plus de voir Lucas se faire chahuter dans la cour, Maurice Robineau est passé aux aveux. Il ne s'est en réalité jamais fait voler ses bonbons. Toute cette histoire est un énorme mensonge. À la sortie de la boulangerie, en cette fin d'après-midi du 18 novembre, Momo a simplement laissé échapper son sachet de friandises. Une fois de retour chez lui, si les larmes étaient bien réelles, il a toutefois préféré inventer cette histoire d'agression pour ne pas subir les foudres parentales. Constatant que cela lui avait permis non seulement d'échapper à une salve de reproches, mais aussi de se voir rembourser son précieux butin, il s'était laissé tenter à la récidive. Surtout, il n'avait pu s'empêcher de fanfaronner dans la cour de récré, avec comme effet pervers de livrer à certains de ses camarades le crime parfait pour se voir offrir des bonbons sans fournir le moindre effort. Quelques-uns s'étaient laissés tenter, sans se douter qu'ils se verraient rattrapés et bientôt dépassés par leurs affabulations, qui finiraient par prendre une ampleur inattendue. Le comité des parents vigilants, qui se réunit pour la dernière fois le soir du 10 décembre, voit des parents, honteux et confus, tenter de sauver la face dans une surenchère de punitions infligées à leurs progénitures respectives. Certains bannissent définitivement la présence de sucreries à la maison, d'autres encore font copier plusieurs pages de déclarations solennelles sur les méfaits du mensonge. Les plus contrits d'entre eux envisagent même d'annuler Noël et ses traditionnels cadeaux. Un seul couple suggère l'achat collectif d'un panier garni à destination des Milinkovic et leurs enfants. Enfin, il reste deux familles qui refusent d'oublier la menace de cette mafia russe, dont l'existence a tout de même été confirmée par un détective privé. Si les crimes étaient imaginaires, la possibilité de les voir se réaliser n'en est pas moins réelle, car il est évident que les enfants n'ont pas pu mêler cet homme à leur mystification. Ce dernier mystère trouvera sa résolution quelques jours plus tard, dans une brève du Berry républicain. La rubrique « Faits divers » relatait en effet que Guillaume Paulin avait finalement été arrêté après plusieurs semaines de recherche. Bien connu des services de police, il était sous le coup de plusieurs chefs d'inculpation. Abus de confiance, fraude, escroquerie et même un acte de filouterie. Le comité des parents vigilants préférera faire profil bas et ne se constituera pas partie civile pour le procès à venir.